Nous sommes le 10 décembre et nous en sommes au dernier mot d'accompagnement de l'année 2023 au Centre Zen de Montréal. J'aimerais aujourd'hui parler d'impermanence. À première vue, l'impermanence semble si évidente. Nous savons tous que les choses changent. Nous l'observons tous les jours. Nous voyons passer les saisons, les jours et les nuits se succèdent, nos enfants grandissent. Toutes nos relations, ce que nous possédons, chacune de nos actions, ce que nous pensons et ressentons. Rien de tout cela n'est permanent, n'est-ce pas? Alors, pourquoi en parler? Et surtout, pourquoi en parler dans le cadre de la pratique du Zen? Il y a enfin une raison toute simple. L'impermanence est une porte ouverte sur ce que nous sommes vraiment. Vous connaissez tous et toutes l'histoire du jeune prince Gautama, qui, à l'âge de 27 ans, quitta le palais de son père, où il avait jusque-là vécu toute sa vie, pour s'en aller comme un moine errant sur les routes poussiéreuses de l'air. Ce jeune prince devint celui que l'on appelle aujourd'hui le Bouddha. Mais pourquoi avait-il ainsi quitté la richesse, le confort, une vie d'aisance et de luxe, laissant derrière lui une épouse et un fils, abandonnant l'héritage de son père? Qui d'entre nous ferait cela? La tradition raconte que depuis sa naissance, le jeune prince n'avait jamais quitté le palais de son père. Un devin avait un jour prédit à ce dernier que son nouveau fils deviendrait un jour soit un roi, soit un pauvre moine errant. Le père, soucieux d'éviter à son fils une vie d'errance et de pauvreté, prit donc la décision d'isoler son fils dans l'enceinte du palais, afin de le protéger d'un sort aussi funeste. Il lui procura tous les plaisirs qui pouvaient s'acheter, lui épargna tous les soucis de l'existence, et il l'éduqua de telle sorte qu'il puisse un jour lui succéder à la tête de la tribu des Chakya et devenir à son tour un souverain éclairé. L'histoire nous dit cependant que Gautama en vint à se sentir prisonnier de tous ses plaisirs, et qu'il voulut connaître la vie de ceux et celles qui vivaient à l'extérieur du palais. Une nuit, il fit venir son cocher, et dans le plus grand secret, ils quittèrent ensemble le palais. Au fil de leur sortie, ils rencontrèrent d'abord un homme malade, puis un vieillard, et enfin un cadavre. Jusque-là, au palais de son père, on lui avait soigneusement épargné les misères de la vie humaine, et il n'avait jamais connu ni la maladie, la vieillesse ou la mort. Gautama en fut profondément terrifié. C'était donc là ce qui attendait tous les êtres vivants. Siddhartha Gautama comprit avec angoisse que la maladie, le vieillissement et la mort étaient des compagnons qui ne nous quittaient jamais dans cette vie. Et ce sont ces compagnons eux-mêmes qui lui montrèrent le chemin à suivre et le lancèrent sur les routes de sa propre libération. La maladie, le vieillissement et la mort sont aussi nos compagnons, n'est-ce pas? Nous les connaissons bien. Qui n'a jamais été malade? Qui n'a jamais senti ses forces décliner? Nous avons aussi déjà vu mourir de nombreuses personnes autour de nous, des proches ou des amis chers. Chaque jour, des milliers d'êtres humains meurent. Et lorsqu'on se regarde dans le miroir, l'on voit bien que nos rides se creusent et que notre peau s'assèche. Et qui d'entre nous n'a pas remarqué que son corps accumule peu à peu son fardeau de douleur et d'incapacité? Nous savons bien que nous allons mourir un jour. Un jour viendra où, après avoir fait nos adieux à ceux et celles que nous aimons, nous ne serons plus là. Il ne restera de nous qu'un corps embaumé et immobile, ou quelques cendres. Nous ne pourrons plus respirer comme nous le faisons maintenant. Nous ne pourrons plus penser. Nous serons sans émotion ni sentiment. Et peu à peu, le souvenir même de notre existence commencera à s'effacer dans l'esprit de ceux et celles qui nous auront connus. Que restera-t-il de nous? Lorsque l'on parle d'impermanence, tout le monde comprend. Nous savons tous que tout change d'instant en instant et qu'il ne sert à rien de tenter de retenir quoi que ce soit. Ce serait comme vouloir retenir de l'eau avec un filet, n'est-ce pas? Et pourtant, nous tentons sans cesse de le faire. Nous voulons que tout cela dure. Et nous nous cherchons nous-mêmes partout, dans les choses, dans les situations, dans le regard des autres, dans ce que nous faisons ou ne faisons pas. Nous tentons de nous fixer, de nous épingler à la réalité, de nous établir quelque part. L'on veut se connaître et savoir qui l'on est. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous pousse à faire tout cela? Dans son livre « Se connaître, c'est s'oublier », M. Lowe écrit, et je cite, « La personnalité fondée sur l'auto-identification en tant que « je » s'imagine être quelque chose et dit « je suis ceci » ou « je suis cela ». Nous sommes constamment en train de courir après la possibilité de trouver enfin ce que je suis. Le sentiment que bientôt nous atteindrons le but final, que nous atteindrons une stabilité et une sécurité définitive et absolue, fait tourner constamment la roue de la souffrance. Fin de citation. Nous cherchons ce que nous sommes, avec l'espoir qu'en trouvant la réponse, nous échapperons à l'impermanence et à l'insécurité. Que nous atteindrons, comme le dit M. Lowe, une stabilité et une sécurité définitive et absolue. Et c'est en tentant d'échapper à l'impermanence de notre propre vie que nous faisons tourner la roue de notre propre souffrance. Voilà pourquoi la pratique en zazen est si importante. La plupart du temps, notre esprit tourne à une vitesse folle, comme un train lancé à grande allure. Lorsque nous nous assoyons en zazen, en restant immobile, ce train ralentit peu à peu, et l'on commence alors à mieux percevoir le paysage qu'il traverse. On commence à distinguer les pensées qui vont et viennent, les sensations du corps, la respiration qui s'approfondit. Et on laisse les choses se faire, sans intervenir. Peu à peu, tout cela devient plus paisible. Il est alors plus facile d'aller jusqu'au bout de l'impermanence. Qu'est-ce que ça veut dire, aller jusqu'au bout de l'impermanence? Dans l'un des sutras, le Bouddha en parle à son disciple Meghiya avec les mots suivants, et je cite. En celui ou celle qui perçoit profondément l'impermanence de toute chose, la pensée du non-soi s'établit. Et celui ou celle qui perçoit clairement l'absence de tout soi séparé atteint l'état dans lequel toute prétention d'être quelque chose s'évanouit et le nirvana de cette vie apparaît. Fin de citation. Permettez-moi de relire ce passage. En celui ou celle qui perçoit profondément l'impermanence de toute chose, la pensée du non-soi s'établit. Et celui ou celle qui perçoit clairement l'absence de tout soi séparé, atteint l'état dans lequel toute prétention d'être quelque chose s'évanouit et le nirvana de cette vie apparaît. La pensée du non-soi s'établit. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que l'on voit enfin que ce qu'on appelle le soi ou la personnalité, ce que l'on croit être, est une illusion. L'on voit enfin qu'il n'y a de soi nulle part. Rien n'est permanent. Le soi n'a nulle part où exister, nulle part où établir sa demeure. Il n'existe aucun endroit où le soi puisse dire « Je suis chez moi ». Le soi n'est pas une chose. Il s'écoule plutôt comme une rivière, sans aucune fixité. Nous n'avons besoin d'aucune demeure permanente. Où que nous soyons, nous sommes toujours chez nous. Alors, qui dites-vous que vous êtes? Et où se trouve votre vraie demeure? Le maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh nous dit, et je cite, « Vous ne pouvez exister seul de vous-même. Vous ne pouvez exister qu'en interdépendance avec tout ce qui existe. Avant votre naissance, existiez-vous ou non? Si vous dites oui, je crois que vous avez raison. Avant même votre conception, vous étiez déjà là, dans votre père, dans votre mère. Nous ne sommes pas devenus quelque chose à partir de rien. Pouvez-vous nommer une seule chose qui ait déjà été rien? Un nuage? Croyez-vous qu'un nuage puisse naître à partir de rien? Avant d'être un nuage, c'était de l'eau, une rivière peut-être. Ce n'était pas rien. Êtes-vous d'accord? Nous ne pouvons concevoir la naissance d'aucune chose. Il n'y a que continuité. De la même manière, mourir signifie transformer quelque chose en rien. Cela est tout simplement impossible. Fin de citation. Cette continuité dont nous parle Thich Nhat Hanh, cette continuité au sein de laquelle tout apparaît et disparaît, est insaisissable. Si l'on tente d'en parler, ce ne sont que des mots. Si l'on essaie d'y penser, ce ne sont que des pensées. Si l'on essaie de l'entendre, de la voir, la toucher, la ressentir, ce ne sont que des sons, des images, des sensations. Et toutes nos paroles, nos pensées, les images que nous nous faisons, tout ce que nous ressentons, tout cela s'écoule sans cesse. Si l'on médite profondément sur l'impermanence, l'illusion du moi, cette illusion qui cause notre peine, se révèle enfin. Rien ne la soutient. Elle n'a aucun support. Elle est comme une maison vide. Rappelez-vous ces paroles du Bouddha. Constructeur de maison, tu as maintenant été vu. Tu ne construiras plus la maison. Tes chevrons ont été décomposés. Ton faîtage brisé. L'on dit que le Bouddha méditait sur sa respiration. C'était la veille de la pleine lune. Pendant la première partie de la nuit, de nombreuses pensées troublantes se sont glissées dans son esprit, des pensées de désir, d'envie, de peur et d'attachement ont surgi. L'on raconte que Gautama n'a pas permis à ses pensées de troubler sa concentration. Il était assis plus fermement que jamais. Il a commencé à se sentir calme et courageux alors qu'il laissait ses pensées s'évanouir d'elles-mêmes. Dans la deuxième partie de la nuit, Gautama réalisa l'impermanence de la vie et comment les êtres vivants ne meurent que pour renaître à nouveau. Dans la troisième partie de la nuit, il réalisa la cause du mal et de la souffrance et comment en être libéré. Il vit comment mettre fin au chagrin, au malheur, à la souffrance, à la vieillesse et à la mort. Et il connut un grand éveil. Tu ne construiras plus la maison. Tes chevrons ont été décomposés, ton faîtage brisé. Rien ne soutient l'illusion du moi qui nous tient lieu de maison habitable. Nous croyons y être chez nous. Nous enfermons soigneusement les portes et fenêtres. Nous nous y sentons en sécurité, disons-nous, et nous prenons grand soin de notre maison illusoire. Est-il étonnant dès lors que nous prenions peur à l'idée de quitter cette maison, qui est après tout la seule demeure que nous connaissions? Comment croire que lorsque nous laisserons tout cela derrière nous, lorsque nous ouvrirons les portes, et quitterons une fois pour toutes cette maison illusoire qui nous tient lieu de refuge et que nous traînons comme un fardeau dans notre vie. Comment croire que nous laisserons seulement une illusion s'en aller? Je n'essaierai jamais de vous en convaincre. Vous devez en faire vous-même l'expérience, dans votre esprit, dans votre cœur et jusqu'au fond de vos os. Dans l'un de ses poèmes, Maître Dogen écrit « Ne pensez pas que le temps qui passe soit semblable au vent et à la pluie qui se dirigent d'est en ouest. Le monde n'est pas inchangeable. Il n'est pas immuable. Il passe. » Ce que Dogen nous invite à voir, c'est que l'impermanence n'est pas quelque chose qui passe dans le monde ou dans notre vie. Le monde et notre vie, c'est l'impermanence. Il n'y a rien d'autre. Le monde n'est pas immobile, la vie non plus. D'instant en instant, la totalité que nous sommes ne cesse jamais de danser. Dans l'un des textes du Shobo Genzo, son œuvre majeure, Maître Dogen commente de manière surprenante la célèbre phrase du Bouddha qui dit que tous les êtres vivants, sans exception, ont la nature de Bouddha. Ce qui signifie que tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, possèdent une nature qui leur permet d'atteindre l'éveil. Dogen rejette cette interprétation. Il est absurde, dit-il, de se demander si les êtres vivants individuellement ont ou n'ont pas une nature de Bouddha les prédisposant à l'éveil. Car, nous dit-il, la nature de Bouddha n'est autre que le « il y a ». Auquel rien n'échappe, la totalité de tout ce qui est. Rien de ce qui est n'échappe à cette totalité. Tout ce qu'il y a se produit en dépendance, selon des causes et des conditions. Rien n'a de nature propre, ni de nature autre. Tout est vacuité. Fin de citation. Encore une fois, rien ne soutient l'illusion du moi qui nous tient lieu de maison habitable. Nous croyons y être chez nous. Nous enfermons soigneusement les portes et fenêtres. Nous nous y sentons en sécurité, disons-nous, et nous prenons grand soin de notre maison illusoire. Est-il étonnant, dès lors, que nous prenions peur à l'idée de quitter cette maison, qui est après tout la seule demeure que nous connaissions? Comment croire que lorsque nous aurons laissé tout cela derrière nous, lorsque nous aurons ouvert les portes et que nous aurons quitté une fois pour toutes cette maison illusoire qui nous tient lieu de refuge et que nous transportons comme un fardeau dans notre vie, comment croire que nous aurons alors seulement laissé une illusion disparaître et que nous verrons enfin que cette illusion elle-même faisait déjà partie d'une totalité qui a toujours été là. La nature de Bouddha n'est autre que le « il y a » auquel rien n'échappe. La totalité de tout ce qui est, nous dit Maître Dogen. Le monde et notre vie, c'est l'impermanence. Il n'y a rien d'autre. Le monde n'est pas immobile. La vie non plus. En terminant, j'aimerais citer le maître Guangcheng, qui est actuellement l'abbé du Temple international de bouddhistes à Richmond, en Colombie-Britannique. Il nous dit, et je cite, « Chers amis, dans ce monde où nous vivons, tout est fugace et impermanent. Pareil à l'eau d'une rivière qui s'écoule. Nous vivons entre le ciel et la terre, comme tant d'autres générations avant nous et tant d'autres qui viendront après nous. Rien n'est plus précieux que l'instant présent. Et pourtant, cet instant lui-même reste inatteignable, puisqu'il ne dure pas. Comme nous le rappelle le Sutra du Diamant, il n'y a aucun dharma que l'on puisse atteindre. » Fin de citation. Lorsque nous avons traversé les illusions créées par les mots, nous découvrons qu'il n'y a aucune place où s'appuyer. La totalité de tout ce qui est danse librement. Et en ce moment même, alors que vous êtes assis en zazen dans ce zendo, ne faites pas l'erreur de croire qu'une telle totalité existe quelque part dans le monde. Ne la cherchez ni en vous, ni à l'extérieur de vous. Il n'y a aucune totalité, aucune illusion, aucune chose que l'on puisse atteindre. Le Bouddha disait, ainsi faut-il voir ce monde éphémère. Une étoile à l'aube, une bulle dans le courant, un éclair dans le ciel d'été, une lueur vacillante, un fantôme et un songe. Aujourd'hui, l'on dirait peut-être une étoile filante. Et maintenant, dites-moi, ici même, avant même que la moindre pensée n'apparaisse dans votre esprit, quel est votre vrai visage?